Depuis quelque temps maintenant, nous étudions ensemble le livre du Deutéronome. Nous avons vu que ce livre est en effet un discours d'adieu. Le discours d'adieu de Moïse. On est aux portes de Canaan, le peuple, après 40 ans dans le désert, va enfin pouvoir entrer dans cette terre pour se l'approprier. Et Moïse n'a pas le droit d'y aller. Il en a d'ailleurs gros sur le cœur. Il va mourir. Et il s'adresse une dernière fois à son peuple. Vous imaginez que c'est un discours important. C'est son testament spirituel qu'il leur laisse. Nous avons vu déjà que ce discours commence par un survol historique, où Moïse raconte les grandes étapes de cette traversée du désert à partir du Sinaï. Il y a cette histoire des 12 espions, cette tentative ratée d'entrer dans la terre. Et puis, donc, le retour dans le désert. Il ne s'attarde pas tellement sur cette période-là. Et puis, Moïse raconte les premières conquêtes, l'interdiction aussi d'attaquer certains peuples qui descendent d'Ésaü et de Lot. Mais la victoire sur certains rois, sur certains peuplades agressives, au point que Israël peut s'approprier des terres même en dehors de Canaan, et certains tribus vont s'installer dans la Transjordanie. Et à la fin de ce survol historique, Moïse va enchaîner en exposant une nouvelle fois la loi. La loi qui a déjà été donnée, qui est contenue dans le livre du Lévitique, dans l'Exode aussi. Enfin bref, cette loi qui a déjà été donnée, Moïse va la rappeler au peuple une dernière fois en insistant sur certains points. Mais avant qu'il n'aborde dans le détail ces dispositions de la loi, nous avons le chapitre 4 qui est à vrai dire un sermon. Et je vous propose qu'on lise aujourd'hui ensemble ce chapitre 4 du verset 1er. J'imagine que à cette occasion, quand Moïse a fait ce discours, le peuple se tenait debout. Donc si vous en êtes en mesure, je vous invite à vous lever pendant cette lecture en signe de respect pour la parole de Dieu et pour la parole de Moïse, qui est quand même un des plus grands serviteur de Dieu, de l'histoire du salut. Et maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne pour les mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous entriez et que vous preniez possession de la terre que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous donne. N'ajoutez rien à la parole que je vous ordonne et n'en enlevez rien. Mettez en pratique les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les ordonne. Vos yeux ont vu ce que le Seigneur a fait à Baal Péor. Tout homme qui a suivi le Baal de Péor, le Seigneur ton Dieu l'a exterminé de ton milieu. Mais vous, qui vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous en vie en ce jour. Voyez, je vous ai enseigné les prescriptions et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a ordonnées, pour les mettre en pratique dans la terre dans laquelle vous entrez pour en prendre possession. Vous les garderez et vous les mettrez en pratique parce que ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes les prescriptions et qui diront « Seul un peuple sage et intelligent a de telles règles, un tel peuple est grand. » Quelle est la grande nation dont les dieux sont aussi proches d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est de nous ? Chaque fois que nous crions vers lui, et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je place devant vous en ce jour. Seulement, prends garde à toi et fais très attention à toi-même, afin de ne pas oublier les choses que tu as vues de tes yeux. Pour qu'elles ne s'écartent pas de ton cœur tous les jours de ta vie. Tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Le jour où tu t'es tenu devant le Seigneur ton Dieu à l'Horeb, quand le Seigneur m'a dit « Rassemble le peuple pour moi, je les ferai entendre mes paroles pour qu'ils apprennent à me craindre, tous les jours qui vivront sur la terre et pour qu'ils les enseignent à leurs fils. Vous vous êtes approchés et tenus debout au pied de la montagne. La montagne était en feu jusqu'au cœur du ciel. Il y avait obscurité, nuages, ténèbres épaisses. Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu une voix parler, mais vous n'avez pas vu de forme. Il y avait seulement une voix. Il vous a exposé son alliance, celle qui vous a commandé de mettre en pratique les 10 paroles et les a écrites sur les 2 tablettes de pierre. Quant à moi, le Seigneur m'a ordonné en ce temps-là de vous enseigner des prescriptions et des ordonnances que vous deviez mettre en pratique dans la terre dans laquelle vous passerez pour en prendre possession. Prenez bien garde à vous-même, car vous n'avez pas vu de forme le jour où le Seigneur vous a parlé du milieu du feu, à l'Horeb, afin que vous ne vous corrompiez pas et que vous ne fassiez pas de statue pour vous, une forme d'idole, quelle qu'elle soit, une image mâle ou femelle, une image de n'importe quelle bête sur la terre, ou une image de n'importe quel oiseau qui vole dans les cieux, une image de n'importe quelle bête qui rampe dans la terre, une image de n'importe quel poisson dans les eaux sous la terre, afin que, en levant les yeux vers les cieux, et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne t'égares pas à te prosterner devant eux et à les servir, eux que le Seigneur ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous tous les cieux. Mais vous, le Seigneur vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise pour fondre le fer, l'Égypte, pour que vous soyez son peuple et sa possession. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Le Seigneur s'est mis en colère contre moi à cause de vous. Il a juré que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans la bonne terre que le Seigneur ton Dieu t'a donnée comme possession. Car moi, je mourrai dans cette terre et je ne passerai pas le Jourdain. Mais vous, vous le passerez et vous prendrez possession de cette bonne terre. Gardez-vous afin que vous n'oubliez pas l'alliance que le Seigneur votre Dieu a conclue avec vous et que vous ne vous fassiez pas une statue, n'importe quelle forme, contrairement à ce que le Seigneur ton Dieu a ordonné. Car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant. Il est un Dieu jaloux. Quand tu auras des fils et des petits-fils, et vous serez installés depuis longtemps dans la terre de Canaan, si vous vous corrompez et vous fabriquez une statue, n'importe quelle forme, si vous offensez le Seigneur ton Dieu en faisant ce qui est mal à ses yeux, aujourd'hui, j'en prends un témoin contre vous, les cieux et la terre. Vous disparaîtrez rapidement de la terre dont vous prendrez possession après avoir traversé le Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps, car vous serez exterminés. Le Seigneur vous dispersera parmi les peuples, et il ne subsistera qu'un petit nombre d'hommes parmi les nations où le Seigneur vous conduira. Là, vous servirez des dieux faits de mains d'hommes, en bois et en pierre, qui ne voient ni n'entendent, qui ne mangent ni ne sentent. De là, vous chercherez le Seigneur ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches, de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand toutes ces paroles t'atteindront, dans ces jours qui viennent, tu retourneras au Seigneur ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu bienveillant. Il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il avait affirmée par serment. Interroge donc les jours d'autrefois qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, d'une extrémité des cieux à l'autre. S'est-il jamais produit une chose aussi grande? A-t-on jamais entendu parler de quelque chose de semblable? Un peuple a-t-il jamais entendu la voix de Dieu lui parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, tout en restant en vie? Ou un Dieu a-t-il jamais tenté de prendre une nation au milieu d'une autre nation, avec épreuves et signes, avec combat, avec une main forte et le bras étendu, avec de grandes frayeurs, comme tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous en Égypte devant tes yeux? On te l'a fait voir pour que tu saches que le Seigneur, il est Dieu, et il n'y en a pas en dehors de lui. Depuis les cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'enseigner, et sur la terre, tu as vu son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. C'est parce qu'il a aimé tes pères, et qu'il a choisi leur semence après eux, qu'il t'a fait lui-même sortir d'Égypte avec sa grande force, pour déposséder les nations plus grandes et plus fortes que toi, pour te faire venir et te donner leur terre en possession. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Tu le sauras aujourd'hui et tu le contempleras. Que le Seigneur, il est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas ses prescriptions et ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, car c'est bon pour toi et pour tes enfants après toi, afin que tu prolonges les jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu t'a donné pour toujours. Vous pouvez vous asseoir. Voilà le grand sermon de Moïse. Voilà ce qu'il avait à cœur de dire à son peuple avant de se séparer de ce peuple et avant que ce peuple entre dans la terre promise, enfin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce texte comporte en fait trois parties. La première partie, elle va du premier verset du chapitre 4 jusqu'au verset 8. Et le mot-clé, j'ai mis en bleu ici, les deux mots-clés, ce sont les prescriptions et les ordonnances qui reviennent constamment. On pourrait intituler ce texte, ce sous-texte, cette partie, Éloge de la loi. Moïse fait l'éloge de la loi. Et c'est clair que pour Moïse, la loi, c'est la vie. Alors, pour des oreilles évangéliques, ça peut sonner bizarre, parce que vous avez passé beaucoup de temps sous la chair de Paul, et dans certains textes de Paul, la loi a une connotation de mort. Mais il ne faut pas mélanger les pinceaux. Si Paul décrit la loi sous cette couleur-là, c'est que Paul a affaire à des judaïsants qui, dans la Nouvelle Alliance, essaient de ramener le peuple de l'Alliance vers l'ancienne, qui veulent imposer les choses périmées au peuple, qui considèrent que la circoncision est nécessaire pour être sauvé. Et si la loi nous ramène en arrière, elle devient un instrument de mort. Mais la loi, et Paul le dit d'ailleurs lui-même, la loi est bonne. Et la loi, c'est la vie pour Moïse. Pourquoi elle est la vie? Parce que la loi, c'est ce qui relie le peuple à Dieu. Dieu, parmi tous les peuples de la terre, a choisi un peuple. Ce choix repose en Dieu. Nous ne savons pas pourquoi celui-là et pas un autre. Il a choisi un peuple. C'était le peuple d'Israël. Et il s'est lié à ce peuple. Il a fait alliance avec ce peuple. Et il a promis une terre à ce peuple. Il a promis qu'il en ferait un peuple fort. Et en revanche, le peuple devait accepter les termes de son alliance. Et les termes de cette alliance, c'est la loi. Donc, la loi est le lien qui relie le peuple à Dieu, qui lui est source de vie. Et en ce sens-là, la loi est vie. Et se couper de la loi, c'est aller vers la mort. Abandonner l'alliance, c'est suicidaire. Il y a une deuxième raison qui ressort ici, vers la fin de notre passage, où Moïse souligne quelque chose qui est présent dès le début de l'alliance, dès l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est que le but de Dieu, ce n'est pas Israël. Dieu va plus grand. Israël n'est qu'une étape dans l'histoire du salut. Dieu veut atteindre le monde entier. Et il dit à Abraham, toutes les nations se béniront en ton nom. Toutes les nations. Et nous savons aujourd'hui comment cela a pu se faire. C'est par Jésus-Christ, bien entendu. Mais le peuple d'Israël, c'est le lieu où Jésus a vu le jour. Et le peuple d'Israël avait déjà cette vocation, et vous le voyez à la fin de ce passage, de rayonner vers les nations. En mettant en œuvre la loi, le peuple de Dieu s'inscrit dans une action qu'on pourrait qualifier d'évangélisatrice. Il s'agit de faire tourner les regards du monde vers la loi parfaite telle qu'elle est, de susciter l'admiration des peuples pour cette loi. Et c'est dans cette perspective que le peuple de Dieu doit s'inscrire en respectant cette alliance.
Nous entrons ensuite dans la deuxième partie du discours. Et là, le discours prend une autre tournure. On est dans le régime des mises en garde.
Il commence déjà comme ça. Prends garde à toi, fais très attention à toi-même. Parce que voyez-vous, ce rôle excellent que Dieu avait pour le peuple d'Israël, il suscite une grande responsabilité. Et cette alliance est très importante aux yeux de Dieu, parce que tout son projet de salut pour le monde en dépend. Et donc, il est dangereux de s'éloigner de cette alliance. Et il y a deux dangers, en fait, qui guettent cette alliance, plus particulièrement. Deux dangers que cite Moïse. Le premier danger, c'est l'oubli. C'est l'oubli. Moïse rappelle au peuple qu'ils risquent d'oublier tout simplement ce qui s'est passé. Ils vont s'installer dans la nouvelle terre, ils auront d'autres préoccupations, il y aura les récoltes, il y aura ceci ou cela, il y aura peut-être tension avec des peuples voisins. Bref, ils s'installent dans cette terre comme un autre peuple. Et ils risquent de devenir comme n'importe quel peuple, avec les préoccupations de n'importe quel peuple. Et Moïse insiste beaucoup sur le fait qu'il faut qu'ils se rappellent de ce que Dieu a fait pour eux, de ce qu'ils rappellent de leur mission, qu'ils maintiennent en vie cette mémoire. Tu te fais reconnaître à tes fils et aux fils de tes fils. Il s'agit de ne pas oublier, parce qu'en oubliant, comme nous l'avons vu, il court un grand danger. Et puis il y a un deuxième danger qui guette cette alliance. Et ce deuxième danger, il est lié à ce qu'ils ont vécu. Moïse rappelle ici les événements du Sinaï. Ici, il est appelé Horeb, mais c'est la même montagne. Ces événements très impressionnants. Vous l'avez vu, vous vous êtes approché de la montagne, c'était les ténèbres, le ciel s'était obscurci, et puis la montagne s'est embrasée. Un feu jusqu'au cœur du ciel, dit Moïse. Et nous savons par ailleurs que Moïse, même Moïse, ce dur à cuire, a été complètement tétanisé face à ce spectacle. Même Moïse a dit « Je suis épouvanté et tout tremblant face à ce qu'il a vu. » Et il y avait ce feu, et du milieu du feu, il y avait une voix qui disait des choses compréhensibles. Vous avez entendu une voix parler, mais vous n'avez pas vu de forme. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas vu de forme de Dieu. Tout ce qui leur a été donné, c'était une voix. Et c'est là que le deuxième danger pour cette alliance s'introduit. Le deuxième danger, c'est de vouloir donner une forme à Dieu. Ce Dieu qui s'est révélé sans forme et qui a interdit qu'on lui donne une forme, il a créé en quelque sorte un vide que les peuples, eux, se sont empressés de remplir avec des statues, avec toute forme de divinité que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de vous énumérer. Le peuple ne devait pas céder à cela. Il ne devait pas devenir idolâtre.
Et c'est ce mot de forme qui domine cette partie du discours. L'image. Moïse met en garde les gens
de se donner des images, de devenir donc des idolâtres. Pourquoi est-ce si grave? Parce qu'en donnant une image à Dieu, comme les images de toutes les autres divinités, il ramène Dieu à ce niveau-là. Dieu n'a pas, il s'est pas donné de forme, peut-être pour marquer qu'il était tout autre que tout ce qu'on connaissait. En lui donnant une forme quelconque, et là vous verrez, enfin vous voyez peut-être, il y a l'ordre de la création à l'envers. On commence par l'homme, on finit par les étoiles. C'est la création sans dessus-dessous. quand on commence avec l'idolâtrie. Hein? En ramenant Dieu à ce niveau-là, ils sont en train de brader leur alliance. Parce que Dieu est tout autre. Et s'ils abandonnent, s'ils ne maintiennent pas cette différence, s'ils le ramènent au niveau de ce qui est connu par ailleurs, ils sont en train de compromettre leur mission, qui est justement de faire comprendre au monde que Dieu est autre que ce qu'il connaît. Et c'est pour ça que c'est très grave. Et Moïse va finir en leur donnant. Première affirmation sur la personne de Dieu, il dit car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant, il est un Dieu jaloux. S'ils sont en train de brader cette alliance, s'ils sont en train de compromettre le salut du monde, ils vont connaître Dieu sous un jour qu'ils n'auront pas envie de connaître. Parce que Dieu est aussi un feu dévorant et on ne joue pas avec le feu. Et si on joue avec le feu, on finit par se brûler. Et Moïse connaît son peuple. Il les a vécus pendant 40 ans dans le désert. Et c'était une série de révoltes. C'était les murmures tout le temps. Et il sait qu'ils vont tomber dans ce piège. Et il le décrit d'avance. Et il leur dit, il leur fait comprendre ce qui les attend. Il sait qu'ils vont finir par adorer des idoles. Ils vont finir par adopter les divinités des coins. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Langage très solennel de justice, de tribunal. J'en prends à témoin contre vous les cieux et la terre. Vous disparaîtrez rapidement de la terre. Hein? Vous n'y vivrez pas longtemps. Voyez-vous, c'était le fruit de l'alliance que le peuple était constitué en peuple et qu'il allait recevoir une terre. Et ces deux choses-là, ils vont les perdre. Ils vont quitter la terre, ils vont être en exil, et ils vont perdre leur statut de peuple, en ce sens qu'ils sont dispersés partout. Il n'y aura plus de corps unifié du peuple d'Israël. Mais Moïse ne serait pas Moïse, et Dieu ne serait pas Dieu, si l'histoire s'arrêtait là. Parce que Moïse va leur donner un espoir. Il va dire, je sais que vous allez tomber dans ce piège. Mais quand vous reviendrez à Dieu. Parce que là, vous allez servir ces divinités. Vous allez savoir ce que c'est. Vous allez savoir ce que ça vaut, cette servitude-là. Mais quand vous crierez à Dieu, il ne sera pas aux abonnés absents. Il vous écoutera. Et là, deuxième affirmation sur Dieu, très important complément par rapport à ce que nous avons vu. Dieu n'est pas seulement un feu dévorant, un Dieu jaloux, mais Dieu est aussi miséricordieux. C'est un Dieu bienveillant, il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il avait affirmée par serment. Et donc, nous entrons maintenant dans la troisième et dernière partie du discours, à partir du verset 32. Et là, de nouveau, le ton change, parce que dans cette partie-là, qui est un peu comme la première partie, contient beaucoup de questions, on pourrait dire, rhétoriques, la réponse tombe sous le sens. Dans cette partie-là, Moïse va leur montrer que leur Dieu est unique. Il va leur dire, est-ce que jamais quelqu'un a fait ce que Dieu a fait pour vous? Réponse, bien sûr que non. Jamais on a vu un Dieu libérer un peuple du milieu d'un autre, le faire sortir comme Dieu a fait sortir, de le maintenir en vie dans le désert, et finalement de lui offrir cette terre promise. Jamais personne n'a fait cela pour un peuple. Et Moïse tire une conclusion intéressante. Cette conclusion, c'est que il n'y a qu'un seul Dieu. C'est un peu surprenant. Là, on voit que Moïse n'est pas un Grec, ni un Français. Il ne se lance pas dans des grands principes universels. Il ne déduit pas de manière abstraite d'un principe philosophique. Il ne fait pas une preuve du genre, la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Non, il est très terre à terre. Et en fait, il déduit l'unicité de Dieu de l'expérience du peuple qui est unique. Jamais personne n'a fait ça, donc il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. sur un plan strictement logique, ce n'est pas forcément une preuve absolue. Mais existentiellement, si j'ose dire, c'est très parlant. Et Moïse boucle la boucle au verset 40. Il dit, tu gardes donc ces prescriptions, ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Donc là, on est revenu au début, au point de départ. Hein, et Dieu va leur donner, Moïse va leur donner maintenant une nouvelle lecture, un nouveau exposé de la loi dans cette perspective-là. C'est pas sûr, parce que quand on y réfléchit un peu, l'analogie entre le peuple d'Israël et le peuple de la nouvelle alliance que nous formons, cette analogie est très très forte. Dieu a agi puissamment dans l'histoire pour faire de ce peuple un peuple, pour les sortir de l'esclavage en Égypte et pour les mettre dans cette terre qu'il leur avait promise. C'est notre histoire. À un moment donné, si vous êtes enfant de Dieu, à un moment donné, Dieu est intervenu dans votre histoire. Il vous a sorti de cette boue dans laquelle vous étiez. Il vous a sorti et il vous a mis sur des rails, sur une voie saine. Il a sorti des ténèbres pour vous mettre dans sa lumière. L'histoire d'Israël, ça vous parle. Et Dieu a fait alliance avec vous. Si vous êtes des enfants de Dieu, Dieu a fait alliance avec vous. Vous êtes entrés dans la nouvelle alliance. Et cette alliance, elle comportait promesses, comme celle d'Israël en comportait. Mais elle comporte aussi des contreparties. Elle comporte aussi l'appel à l'obéissance, l'appel au respect des commandements de Dieu, l'appel à une vie tout autre que celle autour de vous. L'histoire d'Israël, elle nous parle. Les prescriptions, les ordonnances, nous les avons aussi. Nous ne savons pas exactement les mêmes. Il y a des parties de la loi qui sont périmées, qui ne faisaient que pointer vers Jésus-Christ. Cela ne nous concerne plus. Mais nous ne sommes pas sans commandement. Jésus-Christ a même dit, si vous aimez, vous garderez mes commandements. Nous ne sommes pas complètement laissés libres à nous-mêmes. Vous avez le sermon sur la montagne, vous avez, comme le peuple d'Israël, aussi cette mission qui nous est confiée. Le peuple d'Israël devait porter la lumière aux nations. Il devait amener le salut jusqu'aux confins de la terre. Et cette mission, elle n'a été qu'amplifiée lors de la Pentecôte, quand le salut a effectivement débordé au-delà du cadre d'Israël. Nous avons la même mission.
Est-ce que les mises en garde de Moïse nous concernent? Je pense que oui. Je pense que oui, nous aussi, nous sommes oubliés.
Parfois, nous célébrons lors de nos cultes la Sainte Cène. Et bien, la Sainte Cène nous a été donnée pour nous faire souvenir de ce que Dieu a fait. C'est un mémorial. C'est parce que nous sommes oubliés et parce que nous aussi nous courons le risque de quitter cette alliance parce que finalement ce que nous avons vécu n'est plus qu'un lointain souvenir. Nous aussi nous sommes appelés à faire connaître à nos enfants et aux enfants de nos enfants ce que Dieu a fait pour nous. Deuxième danger qui guettait l'alliance,
est-ce qu'il nous guette aussi? Je pense que oui. Il nous l'a pris peut-être pas dans sa forme la plus grossière, mais le fait de
rabaisser Dieu au niveau des autres priorités dans notre vie, ça joue peut-être dans le même sens. Si Dieu n'est plus la priorité qui prime le haut de la pyramide, s'il n'est qu'une chose parmi tant d'autres, c'est que nous avons probablement abandonné l'alliance. En tout cas, nous n'avons plus donné la place qui revient à Dieu. Et mes amis, ce qui était vrai à l'époque est vrai aujourd'hui. Notre Dieu est un feu dévorant. Ce texte est d'ailleurs cité dans le Nouveau Testament, au cas où il y aurait un doute à ce sujet. Notre Dieu n'a pas changé. Et si nous bafouons son alliance, si nous vivons comme les autres, si nous ne n'inscrivons pas d'une manière ou d'une autre dans cette mission qui nous est confiée, il y aura peut-être un retour de bâton.
Parce que Dieu est un feu vivant, et parce que Dieu prend les choses au sérieux, et parce que Dieu a une mission importante, et cette mission, elle est la nôtre. Mais là encore, comme le peuple d'Israël, nous aussi, nous pouvons compter sur le pardon de Dieu. Si nous faisons fausse route, et nous ferons fausse route, nous aussi, nous pouvons crier à Dieu et lui dire, je reviens à toi. Ton alliance, j'y tiens. Je reviens. Et il ne va pas vous jeter, il va vous accueillir.
Là encore, je pense ce texte. Et puis, l'unicité de Dieu.
Vous aussi, vous avez vécu des choses uniques. Quelque chose, Dieu a fait des choses dans vos vies, je pense, j'espère, je crois, que personne d'autre n'aurait pu faire. Il vous a changé. Il vous a donné des priorités qui n'étaient pas là. Il vous a donné une nouvelle perspective sur le monde. Il vous a donné peut-être un sens à votre existence. Qui aurait pu faire ça? Personne d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ne l'abandonnons pas.
Il est aux portes de la terre promise.
Et c'est le danger. C'est un avenir très incertain. L'autre jour, j'avais une belle vue sur les collines de la région et je me suis dit, maintenant, si j'étais Israël, et Dieu me dit, tu vas prendre maintenant cette terre. Tu vas te l'approprier. Quand on imagine ce que c'est en réalité, c'est pas un truc livresque, quelque chose concrètement. Mais c'est il y a des gens qui sont là, il y a des... Vous dites, c'est difficile ce que leur demande. Et c'est dangereux, et ils savaient que c'était dangereux, et les espions leur avaient fait comprendre que c'était dangereux. C'était des gens de haute taille, c'était des sociétés très organisées, avec des militaires sans doute assez bien équipés et formés. C'était tout ce qu'il y avait de plus dangereux que d'entrer dans cette terre. Et un avenir de ce qu'il y a de plus incertain. Et tu leur as dit, vous y allez, je vous donne. Faites-moi confiance. Soyez loyal. Et si vous êtes loyal, je le serai et je vous donnerai cette terre. Voyez-vous, là encore, c'est nous. Je ne connais pas l'avenir, je ne connais pas ce qui vous attend concrètement. Mais je sais que ça ne sera pas facile tous les jours. Là encore, Dieu nous dit, écoutez les amis, vous avez fait alliance avec moi, je suis unique. Je vous amène à bon port, mais je m'attends à ce que vous, en revanche, vous vous inscriviez dans mon alliance, que vous viviez d'une manière qui soit digne de moi et que vous pensiez à cette mission qui vous est confiée, que je vous confie d'aller dans le monde entier et de toucher tout le monde avec cette bonne nouvelle qui est la mienne. Je vous ai dit d'y aller. Vous savez qui je suis. Maintenant, faites-moi confiance et allez-y et gardez bien fort cette alliance. Ces termes, ces commandements, cette mission, cette vision que je vous donne.